J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mujima, Katanga Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous propose parole aux auditeurs. Plusieurs personnes sont souvent victimes d'arnaques des personnes leur proposant l'emploi dans des structures et organismes internationaux en RDC et dans certains pays étrangers comme le Canada, la France. Les derniers cas enregistrés sont ceux de personnes se réclamant de la MONUSCO qui ont promis de l'emploi à des citoyens congolais moyennant des sommes d'argent payées à travers les sociétés de télécommunications. Comment réagissez-vous? Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Tati Mapoukoua sur la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Tiala. Pierrot Elamegi a le réel plaisir de vous la présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Participez à Parole aux auditeurs 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Depuis plusieurs mois, quelques années, disons même, que beaucoup de Congolais se plaignent, sont victimes des propositions d'emploi, que ce soit par téléphone, par email, l'emploi au sein des organismes internationaux, des ONG, que ce soit en RDC, au Canada, en France, en Suisse et partout ailleurs, et d'autres sont victimes des individus réclamant de la MONUSCO, proposant de l'emploi, qu'il faudrait payer l'argent pour être recruté à travers les services de mobile banking, c'est-à-dire qu'à travers, par exemple, M-Pesa, Airtel Money, Tigo Cash, et plusieurs personnes sont victimes de ces genres de choses. Comment commentez-vous ces phénomènes et des pistes et des solutions pour arriver à faire face à cette situation? C'est la question au centre de Parole aux Auditeurs. Beaucoup de témoignages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais si vous avez aussi des pistes et des solutions et des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Et nous avons associé à cet échange Monsieur David Pata, qui est responsable de recrutement et formation à Sodeico. Monsieur Pata, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment expliquer ces phénomènes qui a pris quand même de l'ampleur depuis quelques temps en RDC?
Ok. Allô?
Oui, on vous écoute, oui.
Effectivement. Donc, comme vous savez, la réalité du marché de l'emploi congolais est telle que il n'y a pas assez d'emplois, mais beaucoup de diplômés. Et puis, il y a aussi une autre problématique liée à l'adéquation entre la formation reçue et également les postes, n'est-ce pas, pour qui nécessitent effectivement un engagement. Et donc, tous ces éléments, quand vous le mettez ensemble, font que l'accès à aux milliers de l'emploi congolais, et il est difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui ont compris ces différents éléments, des difficultés d'accès à l'emploi, et qui commencent effectivement à profiter de la situation. Le problème est très simple. L'emploi ne peut pas être payant. Si, déjà dès le départ, on vous dit que pour avoir un emploi, il faut donner votre salaire, etc. C'est dès le départ, il faut déjà soupçonner qu'il y a déjà une certaine aventure qui est en train d'être construite, n'est-ce pas? Et donc, il faut faire donc toujours attention, parce que vous n'avez pas du travail. Mais où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour payer? Et donc, si déjà quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire qu'il veut vous offrir un emploi moyennant quelque chose, sachant que vous n'avez pas du travail et que donc vous n'avez pas de l'argent, c'est que c'est déjà de l'aventure. C'est déjà de l'aventure. C'est de la part qu'on vous présente, sachant que vous êtes dans une situation, n'est-ce pas, de manque, et que vous allez vous mobiliser pour aller chercher effectivement de l'argent. Et donc, c'est de l'escroquerie pure et nette. C'est que, peu importe, n'est-ce pas, la structure, si on vous dit qu'une structure vous informe dès le départ que pour avoir accès à un emploi, il faut payer. Et dès le départ, c'est des sujets de la banque, il ne faut pas faire confiance.
Mais alors, David Pata, mais est-ce que cela aussi n'a pas été occasionné, comme vous l'avez dit, les gens ont besoin de l'emploi, mais on a vu aussi dans des entreprises, cela existe, de personnes qui sollicitent de l'emploi, soit ceux qui sont déjà anciens ou qui vous facilitent les contacts avec l'entreprise, demandent aux autres de pouvoir donner la moitié du salaire, le premier salaire, on l'a vu, hein, avec deux fois dans des sociétés, dans des institutions d'enseignement supérieur universitaire, on a eu beaucoup de témoignages comme ça, où des gens ont demandé aux autres, je vais te faciliter quand t'es recrute, mais pour moi, de pouvoir me donner la moitié de ton salaire. On l'a vu dans les entreprises, cela existe. Est-ce que cela aussi n'a pas occasionné et que les autres personnes aient confiance quand les propositions sont faites par l'entremise de l'Internet ou bien de la téléphonie cellulaire?
Mais effectivement, tout ça qu'on dit, c'est de l'aventure. Mais si vous tombez sur un métier comme ça, il faut l'accuser, il faut la traduire en justice, il sera arrêté. Il n'y a aucune disposition légale qui autorise aux gens de monnayer l'emploi. Aucune. D'ailleurs, on nous dit que le recrutement ne doit pas être discriminatoire en termes, n'est-ce pas, des provinces, des sexes, etc. Et également, ça ne peut pas être monnayé. Mmh. C'est que les structures de placement font ce qui est légal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, maintenant, je vais répondre à la question presque de tout le monde. Comment on arrive, n'est-ce pas, à faire payer les services d'un recrutement? C'est l'entreprise qui a besoin de main-d'œuvre. Et l'entreprise va aller auprès d'une structure de placement spécialisée dans les recrutements. Et donc, c'est lui qui va, n'est-ce pas, payer la demanderesse. C'est l'entreprise demanderesse qui vient solliciter les services auprès de la structure de placement. Et donc, si les candidats postulent, c'est que les candidats n'ont rien à voir, rien à payer à la structure de placement. C'est l'entreprise qui va payer les services qu'elle a sollicités, puisque l'entreprise l'a budgétisé. Donc, si cette structure de placement déjà demande de l'argent aux pauvres candidats, c'est de pure escroquerie, de la pire escroquerie. Donc, les candidats, s'ils ont des preuves matérielles, ils peuvent effectivement les traduire en justice, une telle structure pareille, ou un tel individu. En fait, le gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont compris que le peuple congolais est dans une situation de manque d'emploi. Et, vous savez, effectivement, ça c'est la simple théorie de la motivation. Dans une situation de manque, l'individu a, de manière naturelle, tendance à chercher les moyens pour combler. Et donc, parmi les moyens, quand on vous présente l'APA, comme ça, ça c'est un APA. Messieurs, venez, on vous miroite effectivement un emploi dans une structure et on vous demande effectivement de donner quelque chose. Vous allez effectivement vous débrouiller pour donner. Et c'est donc, vous tombez dans le piège de l'escroc. Ça, c'est une chose. Et pour les gens qui sont déjà au sein des structures qui travaillent, qui font des manœuvres telles que demander de l'argent aux pauvres candidats, sachant effectivement qu'il y a un poste réel ou carrément négocier un salaire, ça c'est aussi vraiment des pires avantages parce que même les entreprises de placement qui fonctionnent selon les règles de l'art et des droits congolais, elles ne peuvent pas, ces structures ne peuvent pas, n'est-ce pas, aller au-delà, n'est-ce pas, pourquoi, n'est-ce pas, ils ont été autorisés à fonctionner par l'ONU ainsi que le ministère du travail et de la prévention sociale.
Mais il y a aussi d'un côté, si vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, David Pata, on va suivre bien l'émission à travers les téléphones portables. Il y a aussi le problème de l'arnaque qui se passe à travers la cybercriminalité. Cet aspect, nous allons évoquer ça, le temps d'écouter aussi les auditeurs, parce qu'ils sont nombreux qui voudraient bien témoigner, intervenir dans cette émission au 09 97 06 49 69. Omar, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Pierre Namedji. Bonjour Sophie de la radio Katou.
Oui, on vous écoute Omar.
Merci beaucoup Pierre Bizarre que vous m'accordez. Avant de donner ma proposition pour lutter contre ces fléaux dangereux, je voudrais aussi faire un témoignage. Je crois Eric Menkassi, j'ai reçu la tête d'un monsieur qui s'est prénommé Évangéliste Jérémie, mais disant qu'il travaille à la municipalité de Sandani. Alors, comme ce sont des gens très malins, il a commencé par m'appeler par mon nom, comment le travail, tout cela. Il me demandera de contacter son chef ici à Kinshasa. Et j'ai vite compris et je lui ai posé deux questions. Comment vous connaissez? Il me dira qu'on se voit une fois en cours de route, il m'aurait remis une éducation de campagne, des organisations. Et j'ai lui demandé de travailler où? Il a quand même coupé le téléphone. Donc, face à des telles personnes, il faut avoir des astuces. Ils étudient la moralité de quelqu'un, la psychologie. Et généralement, très cher, qui reçoit des gens qui vous connaissent parfaitement bien. L'autre état de l'œil, il y a une semaine aussi avant celui-là, donc j'ai une question de questions suivies, mais j'ai fait arrêter l'autre là. Il m'appellera toujours pour dire qu'il y a des clans qui vendent quelque chose, si je peux le lire d'être un peu de quelque chose, et que c'était un habit qui me vendait. Alors, je demandais à quelqu'un de venir vers moi. Il faisait des conditions en tenue civile, on a pu mettre la main sur eux. Donc, très cher, qui ressent des faits que nous vivons ici à Kinshasa dans tous les domaines, et qu'on peut qualifier en voie de les procurer. Alors, quelles sont les causes principales qui font que la premièrement, c'est d'abord la majorité. Une personne intéressée, même une personne qui n'a même pas fréquenté l'école, lorsqu'on vous appelle pour vous dire que vous avez gagné un jeu, ou qu'on vous demande d'essayer de quelque chose contre elle, faut d'abord se poser si cette personne me connaît ou est-ce que je vais rencontrer. Il y a des personnes très malignes qui font comme si vous connaissez, vous parlez de votre femme, de votre voisin, et quand vous n'êtes pas souple, on vous transmet directement. Donc, premièrement, c'est la naïveté de la personne qu'on contacte. C'est pas la forme de l'écoute. Deuxièmement, il n'existe pas en notre pays, n'est-ce pas, une politique criminelle dans ce domaine-là. Vous savez, ce n'est pas un problème seulement juridique ou politique, c'est un problème criminologique. Ailleurs, partout, il y a une police, n'est-ce pas, qui lutte contre ce phénomène-là de justice, n'est-ce pas, de téléphone, des emplois. Troisième chose, c'est la difficulté d'emploi au Congo, Christian Pierrot. Il n'y a pas d'emploi au Congo. Alors, lorsqu'on est face à un chômage très accru, et lorsqu'il y a un autre qui se présente, directement l'homme tombe. Nous, il faut interpeller l'autorité pour donner des emplois aux jeunes plus tard. Chaque cause, il y a la naïveté des agents de recrutement, n'est-ce pas, je commence par la nationale, l'ONM. Est-ce que beaucoup de jeunes connaissent l'ONM? Ailleurs, je pense que la Deuxième République, il y avait des autres qui étaient fixés par l'ONM. Le chat a organisé de façon que tout celui qui voudrait avoir une offre d'emploi se rende à l'ONM. On a laissé la liberté à tout le monde et les jeunes faire ce que vous voulez. Si l'ONM, qui s'occupe de l'emploi dans ce pays, m'a organisé, je pense qu'il y aurait des structures dans chaque commune, dans chaque province, pour que les jeunes qui ont besoin d'emploi puissent d'abord aller voir les autres, et puis déposer, n'est-ce pas, les dossiers pour la banque de données. Voilà les quatre causes, à mon avis, Pierrot, qui font qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène de progrès courant. Alors, pour proposer pour lutter contre ce phénomène efficace, maman propose premièrement à la personne contactée, soit par téléphone, soit par mail, de se poser plusieurs questions. On veut toujours les réfléchir avant d'agir. La personne qui me contacte m'a vu où? Comment est-ce que vous me connaissez? Deuxième chose, il faut que le test s'organise en termes d'emploi. Nous avons tout un ministère de l'emploi qui est dans ce pays avec des tests, avec un budget. Il faut pas qu'on puisse centraliser. Il faut qu'on dise aux jeunes où est-ce qu'il faut demander les demandes d'emploi. Il y a aussi des structures organisées, celles que dirige votre invité. Il faudra qu'il y ait des structures pour plus un peu moins les annoncer même à la RPC à vous radier pour lui en cas de problème d'emploi en s'appelle. Troisième chose, il faut qu'il y ait une police criminelle qui est dans ce domaine-là. Moi, qu'est-ce que je vais par exemple? Lorsque je suis un tel appel, je fais semblant d'accepter leur offre. Je même parle avec leur nom, je les ai invités et les policiers sont en série. Une fois arrivé, on a mis la main sur un d'entre eux et on a pu chercher toute la bande de ce soir en film, on a resté quatre. Voilà mes petites propositions par rapport à cela, mais cela relève la confiance de l'État congolais qui a donné l'emploi aux jeunes, et de le discours du travail qui doit s'organiser et renforcer le même. Et trois, le Congolais qui doit ne pas être naïf, mais être souple quand vous faites des choses d'appel. Et quatrièmement, c'est les structures d'emplacement, de recrutement qui peuvent être connues et que les adresses puissent être officiellement établies, ce qu'on gérerait de tels problèmes, n'est-ce pas, qui se vit dans cette société.
Merci beaucoup, Omar. Vous avez donné des causes, hein, mais je retiens quand même votre insistance sur le rôle que devrait jouer l'Office national de l'emploi ONEM, qui devait être présent à travers le pays, qui devait faciliter à ceux qui ont besoin de l'emploi les contacts pour savoir s'il y a des offres et des postes. Et cette faiblesse de l'ONEM fait aujourd'hui que les gens sont abandonnés à eux-mêmes, mais d'autres structures qui travaillent comme des structures de placement devraient beaucoup plus faire des campagnes de sensibilisation et à la population d'être vigilante. Il faut se poser des questions. Cette personne qui m'appelle, qui me propose de l'argent, me connaît à partir de voilà un peu l'ensemble de ce travail qui doit être fait pour protéger les uns et les autres contre cette escroquerie. Merci beaucoup, Omar. On retourne ici à Kinshasa. On reste à Kinshasa, bien sûr, avec vous, ingénieur Valérie. Bonjour.
Bonjour à Maître Omar et à tous les invités de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci pour la parole. Donc, voilà, je m'excuse de commencer par donc, c'est trop quinoa là. Bien, je disais que, en tout cas, je souscris en grande partie, d'ailleurs même totalement, à tout ce que mon prédécesseur Maître Omar vient de nous dire. Vous savez, c'est un réseau qu'il faut démanteler. Et le peuple, les parents aussi doivent en profiter pour éduquer les enfants. Le problème, c'est que quand les grandes œuvres, quand les événements pareils se passent, les parents sont distraits. Ou des fois, ils en parlent à bord des bus, dans le bar. Ah, dit, mais Nicolò Desco m'a commis. Et ça s'arrête là. Mais on oublie comment il faut transposer cela juste dans les foyers afin d'assumer son rôle pédagogique. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas tout ça. Aujourd'hui, c'est la rue qui éduque. Si c'était d'abord la maison, l'école, l'église, l'État et tout, vous verrez que nous allons réduire ce genre de taux. Nous allons réduire les taux de ce genre de choses. Alors, je voudrais insister, comme là déjà, puisque Maître Omar a déjà parlé de l'ONEM, je vais y revenir, mais je voudrais aussi demander aux parents qui nous suivent d'avoir l'habitude d'exploiter les informations pour ramener au niveau de l'éducation des enfants, afin que les enfants ne soient plus dupés dans la vie. Maintenant, vous savez que la nature a horreur du vide. C'est parce qu'il y a un vide. C'est là où j'ai rejoint Maître Omar avec mon argumentaire à moi, bien sûr. C'est parce qu'il y a un vide en matière d'emploi. L'ONEM n'existe pas ou ne fait pas correctement son travail. Et en plus de cela, même si l'ONEM pourrait bien le faire, mais nous constatons qu'il n'y a même pas tellement d'embauches. Il n'y a pas assez d'emplois. Si bien que, dans cette crise, les emplois deviennent des bouches à l'oreille et les autres, sachant qu'un tel système est déjà exploité, ils commencent aussi à s'en servir pour escroquer les gens. Alors, je voudrais aller encore un peu plus loin. Mais pourquoi il n'y a pas assez d'emplois? Donc, la question devient encore transversale. D'abord, je voudrais expliquer un peu les concepts d'emploi afin qu'on se comprenne bien avant d'évoluer. Le mot emploi, on peut le sous-entendre sous trois dimensions. Du point de vue comptable, c'est un usage des ressources. En économie, on peut diviser par rapport à la micro et à la macroéconomie. Du point de vue microéconomique, c'est un emploi, donc disons, un emploi c'est comme un travail, un poste de travail, disons. Tandis que du point de vue macroéconomique, le mot emploi est utilisé sous forme de politique pour voir les problèmes de chômage, de sous-emploi et de plein emploi. C'est parce que dans notre pays, nous ne sommes pas encore au niveau de plein emploi. Et la politique doit aussi mettre la main dedans. Avant d'organiser l'ONEM, les emplois doivent exister. D'où il faut recourir à une politique incitative pour séduire les investisseurs. Mais vous savez comment va-t-on investir et disons séduire les investisseurs lorsque nous vivons des insécurités, lorsque nous vivons même le banditisme urbain, lorsque la justice, ce sont les juges qui gagnent des procès et non des avocats. Tout cela, c'est toute une chaîne qui fait que les problèmes d'emploi puissent souffrir de crédibilité, puissent souffrir aussi de clientélisme, disons, puissent souffrir d'investisseurs. Et c'est un problème très sérieux parce que lorsque l'emploi n'existe pas, à ce moment-là, les foyers sont détruits. Et quand les foyers sont détruits, l'éducation devient le domaine de la rue. C'est pourquoi, j'insiste, il faudrait qu'on mette beaucoup plus de sérieux dans le travail.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, que nous constatons soit les gens sont des chômeurs, soit ils travaillent, ils sont impayés, soit ils sont payés, mais alors sous-payés. Ce sont des problèmes comme ça qui sont à la base de cela, mon frère.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Qui dit emploi, dit investisseur, dit entrepreneur. Il faudrait qu'on ait des entrepreneurs qui vont créer l'emploi. Et quand, à cette occasion de sous-emploi, c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens sont abandonnés à eux-mêmes et les arnaqueurs en profitent. C'est toutes ces questions qui doivent être analysées au niveau de la communauté, au niveau de la société. Merci beaucoup. Barthélémy, vous êtes à Kananga, au Kassai Central. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Alors, je vais un peu intervenir concernant le sujet du jour. Je vous remercie d'abord d'avoir introduit ce sujet du jour. C'est un sujet qu'il faut toujours parler. C'est un sujet qu'il faut toujours se donner corps et âme. Par rapport à ce que vous venez de parler, ici à Kananga, OEM vient de publier sur ses bilans d'activité. Il dit que non, à Kananga, les travailleurs n'achètent pas les cartes de demandeurs d'emploi. Il y a un phénomène qui s'est passé ici à Kananga, il est connu de tous. une personne qui était de l'Est, qui s'appelait Maïcha, qui est venue en disant, non, non, j'ai une entreprise. Oh, j'aimerais prendre le directeur de projet, j'aimerais prendre le sujet. Bon, dans tous les postes. Quand le moment est arrivé, les gens ont déposé leur candidature. Au moment des examens, on nous dit, non, non, vous allez présenter ces examens moyennant quelque chose. Nous avons d'abord, nous avions contribué, nous avons donné notre argent. Quand, au moment venu, même celui qui était venu avec l'entreprise avait signé même le contrat avec les journalistes à la radio. Chaque radio publiait toujours l'offre d'emploi. À un moment donné, nous constatons que cet homme-là a disparu et il est parti. Et cette fois, nous pouvons l'attribuer à notre État qui ne fait pas son travail correctement. C'est pourquoi nous sommes parvenus à donner notre argent-là gratuitement, comme ça, parce qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Si tu te trouves aussi devant une personne qui est malin de plus que toi, il te dit non, non, tu me donnes, je vais t'aider à être retenu. Directement, je donne, je ne peux pas résister. C'est pourquoi nous utilisons notre argent, si tu mets ma canne, ou soit au Congo, inutilement.
Merci beaucoup, Bartimi, pour ce témoignage. Quelqu'un qui arrive et vous dit, je viens de l'Est, j'ai mon entreprise qui s'appelle Maïcha, il commence à lancer des campagnes au niveau des médias locaux là-bas, et les gens passent même les tests, ils prennent l'argent et puis ils disparaissent. C'est ça aussi le problème.
Oui, mais... oui. Mm-hmm. Oui, il avait signé même le contrat avec les journalistes, ils sont témoins, même s'ils écoutent la radio, cet après-midi, ils sont témoins. Ils étaient restés non payés jusqu'alors.
Et le gars, lui, il a disparu. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Barthélémy. Et c'est là où David Pat, notre invité, insistait sur la prudence. Hein. Quand quelqu'un vient dans une ville, que j'ai une telle entreprise, je vais recruter, il faut quand même qu'il présente les documents. Mais les gens aussi sont capables
Une personne ne peut pas venir, sur la ville. Il ne peut pas entrer dans une province. Puis si on a la porte de la province, il faut toquer d'abord. Une personne ne peut pas venir aussi directement comme ça, entrer. Il avait d'abord toqué.
C'est que quelque part, il y a eu une faiblesse quelque part, que ce soit au niveau du gouvernement provincial, de la mairie, parce qu'il devait quand même avoir des autorisations pour pouvoir s'adresser à la population. Voilà, c'est ça le problème, il faut être souple. Rappelez-nous au 081-890-7315, 081-890-7315, et 09-97-06-49-69, 09-97-06-49-69 pour intervenir en direct. Merci beaucoup, Barthélémy. Nous avons beaucoup de témoignages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Freddy Bossimo, qui est ici à Kinshasa. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur de nos jours grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont premièrement à la base parce que beaucoup de gens laissent la confidentialité de leur numéro à la portée de tout le monde. C'est comme ça qu'on peut facilement recevoir de son téléphone un appel provenant d'un inconnu, mais qui vous détaille votre nom, voire même celui d'un de vos amis. Moi, je pense qu'on devrait sensibiliser les gens sur les arnaques, dit Bourteur, car c'est des phénomènes qui sont un grand défi. C'est un grand défi à élever pour le 21e siècle. L'Addis Mumba de Mangui, la RDC ainsi que d'autres pays africains sont victimes de la cybercriminalité par manque de renforcement des sécurités de notre espace informatique qui permet à n'importe qui de créer un site ou lancer des publicités annonçant des offres d'emploi, bourses d'études à l'étranger qui ne sont pas du tout réelles, et cela fait beaucoup de victimes dans notre pays parce que cela est devenu un rêve pour tout et chacun de quitter les pays espérant aller vivre mieux à l'étranger, surtout pour nous les jeunes qui n'avons plus confiance dans nos institutions de la place, parce qu'étudier en France ou au Canada devient inaubaine. Gulam Kumakuma, lorsque les chômages bat son plein, certains se transformeront en loups, car parmi ces arnaqueurs, beaucoup sont aussi des sans-emploi, mais qui développent des astuces malhonnêtes pour survivre et font des autres des proies. C'est un acte que nous ne devrions pas encourager, mais plutôt bannir. Dans certains cas, les victimes sont sous-informés des procédures de recrutement des organismes tels que la MONUSCO. D'autres sont par contre simplement stupides car ils veulent tout gagner dans la facilité. Et d'ailleurs, parce que vous avez évoqué le procédure des recrutements à la MONUSCO Gulen Kouma, nous avons même cette mise au point qui a été faite par la MONUSCO lors de la conférence de presse hebdomadaire qui s'est déroulée le mercredi. Alors la MONUSCO a dit ceci, je peux bien lire, depuis plusieurs mois, des individus mal intentionnés soutirent de l'argent au nom de la MONUSCO. Ces personnes contactent des Congolais et des Congolaises par téléphone, leur proposant déposer des candidatures à des emplois à la MONUSCO. Ils réclament alors des sommes d'argent parfois très importantes pour soi-disant les frais d'enregistrement ou des frais de dossier. Il s'agit d'une arnaque. La MONUSCO et les Nations Unies, en général, ne demandent jamais d'argent. L'ONU ne perçoit des frais à aucun stade de recrutement, que ce soit les dépôts ou traitement des candidatures, entretien, formation. Et elle ne demande aucune information bancaire des candidats. De plus, la MONUSCO ne lance pas des recrutements par téléphone en appelant directement des individus. À tous, nous demandons d'être vigilants et de dénoncer ces escroqueries. Voilà, ça c'était la mise au point faite par la MONUSCO. Tout à l'heure, nous allons accorder la parole à notre invité. Mais je rappelle encore que vous pouvez nous joindre au 081-890-6315 et 09-97-06-4969.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Voilà, David Pata, vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés, que ce soit en direct ou sur la page Facebook. Quelle est votre réaction?
Ok, merci beaucoup. Donc, effectivement, ils ont balayé des grandes lignes, n'est-ce pas, de ce que nous avons d'ailleurs dit. Mais il y a quand même des éléments à préciser, parce que ce qu'il faut savoir, les entreprises, ils sont déjà trop prises avec les activités, parce qu'ils doivent effectivement réaliser des profits, et donc, ils ne vont pas se transformer en ONG ou en organe de sensibilisation. Donc, il y a des organes de sensibilisation, par exemple, les associations, les syndicats pouvaient effectivement aussi être impliqués, n'est-ce pas, pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, la diffusion des informations en ce qui concerne effectivement la situation qui se présente. Il faut signaler également que l'ONEM a le rôle, effectivement, pour ces cas précis, notamment, de pouvoir valider des offres d'emploi qui sont diffusées partout. Donc, ce qui suppose qu'il devrait disposer des agents qui devraient faire le monitoring pour voir différentes offres, que ce soit sur les sites, que ce soit, si ces offres, effectivement, sont des offres réelles. Ça, c'est un travail, effectivement, qui incombe à l'ONEM, qui devrait être ainsi. Parce que qu'est-ce que l'ONEM fait? L'ONEM fait qu'attendre des offres qui lui sont présentées pour validation. Il devrait également rassurer que toutes les offres publiées pour pouvoir, effectivement, c'est rassurer que ce sont effectivement des offres réelles et il n'y a pas effectivement des offres fantaisistes ou frauduleuses. Maintenant, un autre aspect pratique. Mais vous savez que nous disposons des services spécialisés dans notre pays. Mais si déjà, par exemple, dans un coin, il y a l'organisation des tests, il y a toujours des agents qui circulent, des agents des services spécialisés qui circulent là-bas. Ces agents, ils devaient effectivement faire le monitoring pour voir quelles sont les grandes activités. Parce que quand, par exemple, on fait des grands recrutements comme ça, des masques, c'est-à-dire que ces services sont aussi courants, effectivement, ils devaient faire les rapportages et vérifier également les informations. Dans les cas pareils, un aventurier comme ça qui va effectivement s'improviser dans une province comme avec une entreprise de soins, il devait effectivement déjà être interpellé dès le départ. Parce que simplement, son entreprise d'entreprise n'est même pas enregistrée, n'est-ce pas? Vous savez que les entreprises, effectivement, ont une identité, n'est-ce pas?
Exact.
Une identité légale. Donc, ils ont, il y a le MRC, il y a le RCN qui dispose. Donc, si déjà l'entreprise qui s'amène n'a pas des outils, n'a pas des instruments d'autorisation de fonctionnement, ce n'est pas une entreprise, c'est de l'aventure. Ça, c'est une chose. Mais aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de manque de sécurité en cybercriminalité, tous ces consorts, bon, c'est bien beau, mais que vous le voudriez ou pas, si vous êtes déjà connecté sur un réseau, même partout ça s'est fait, si vous êtes déjà connecté sur un réseau, les informations que vous mettez, ils sont exploitées effectivement par beaucoup de gens. Donc, il y a toujours moyen que les gens aient accès à votre numéro ou à votre mail pour vous proposer des informations. Ce qui est important, parce qu'il s'agit ici d'un aspect vraiment comportemental. Quand on vient effectivement vous présenter l'appât, cet appât-là, pour assouvir à votre soif, Ce qui est important, il faut être prudent. Il ne faut pas se laisser emporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas vous offrir un emploi dans un an quelque chose. Ça, c'est un principe direct. Si déjà quelqu'un commence déjà à vous informer que pour avoir tel emploi, il faut donner quelque chose, c'est déjà de l'aventure. Vous n'avez pas besoin d'aller anonyme pour vous rassurer que si l'offre est sérieuse ou pas. Vous n'avez pas besoin d'aller auprès des services spécialisés pour vous rassurer que si l'entreprise existe réellement ou pas. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de faire toutes ces gymnastiques. Il faut déjà vous dire qu'il s'agit d'une offre fantaisiste. Il ne faut pas mordre. C'est de l'aventure, vraiment de l'anarchie. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il faut vraiment de la prudence. Il faut de la prudence pour éviter, n'est-ce pas, d'être chaque fois
obligé,
n'est-ce pas, de manipulation.
Voilà, merci beaucoup. On vous garde, David Pata. Nous sommes ici à Kinshasa, avec vous, Anissé. On a vu votre commentaire sur la page de Facebook des Paroles aux Olis tout à l'heure. Anissé, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Anissé.
Ok, merci. Je voudrais ici, messieurs les journalistes, donner un petit témoignage, parce que moi, je suis victime. C'était en 2015, il y avait un monsieur qui était venu, là j'étais encore dans la province de la Mongala, un monsieur, soi-disant un père missionnaire, qui était venu, qu'on lui a confié la mission de pouvoir recruter les jeunes qui vont bénéficier de la bourse canadienne pour aller étudier là-bas au Canada. Les messieurs, nous avions d'abord commencé par passer un test, et après le test, il nous a demandé à chacun $150. Et nous avions donné les $150. Il nous a dit de rester calme, l'avion va venir pour nous prendre à Nisala. Là, c'était à Nisala. On était là, la date qu'il avait fixée pour le voyage est arrivée. Après, le monsieur nous dit que non, il y a un peu de complications, nous devons encore patienter. Quand nous avions remarqué là, nous étions obligés d'aller signaler les agents de l'ANER sur place à Nisala. Et ces agents de l'ANER avaient saisi le monsieur. Le monsieur était là en prisonnier. Après quelques jours, nous avions vu monsieur est libéré. On nous dit que non, l'histoire est vraie et nous devons toujours être patients. Mais par rapport à ça, moi je veux dire ceci, messieurs les journalistes, si des choses comme ça se répètent ici dans notre pays, c'est parce
que... Oui, Anissé, s'il vous plaît, oui. Les témoignages, il est assez intéressant. Après sa libération, on vous a dit de continuer à garder espoir que l'histoire est vraie. C'est comme ça qu'il a présenté auprès des services de sécurité, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et après, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Oui, après ça, il avait pris les transports pour Guémena. Oh non, il y a encore d'autres candidats là-bas à Guémena. Comme il était superviseur des Sequoia, il doit encore arriver à Guémena là-bas pour voir d'autres candidats qui étaient là. Or, c'était juste une manière de pouvoir se disparaître.
Et donc, jamais il n'est revenu. Et vous ne l'avez plus jamais revu.
À présent, là, nous ne connaissons pas là où le monsieur se trouve. Même son numéro ne passe pas. Sa famille sur place, Anissala, est menacée à cause de lui. Voilà un peu des choses comme ça. Donc, le gouvernement doit faire attention. S'il y a des bourses qui se font, le gouvernement doit quand même donner un service approprié pour permettre à ce que les citoyens congolais ne puissent pas subir ce genre de conséquences. Vraiment, c'est ça un peu mon témoignage, ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Alice, pour ces témoignages. À toutes ces questions, même les questions qui touchent aux bourses, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'emploi. Il faut plus poser des questions, avoir plus d'informations, des témoignages. N'est pas tombé. Dommage pour ce qui vous est arrivé en 2015. C'est ce que nous sommes en train de déplorer, mais nous sensibilisons pour que les gens aient beaucoup de prudence, comme le disait tout à l'heure notre invité. Merci beaucoup, Anissé. Dieudonné, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Vous avez suivi tous ces témoignages, c'est assez intéressant quand même. Quand on regarde ce qui s'est passé dans un passé récent ici à Kinshasa, je me rappelle bien des victimes qui sont venues réclamer à la MONUSCO qu'ils ont été escroqués par M-Pesa, par les réseaux. Ils ont payé l'argent. Tout ça. Et la MONUSCO a pu faire encore la mise au point comme je venais de lire la mise au point d'aujourd'hui il y a une année. Mais on s'est rendu compte que les gens continuent toujours à pouvoir faire confiance à donner de l'argent. Quel est votre point de vue autour de cette question?
Monsieur Perrault, de prime abord, je voudrais d'abord aborder dans le même sens du dé qui m'est nécessaire. Vous savez ce qui fait dans notre pays avec tout ce qui s'était passé concernant la MONUSCO et que les gens avaient donc pu donner leur argent à travers le MPSA et leur Telmanie. Tout ça, M. Perrault, c'est une part des responsabilités qui incombe l'État. Vous savez, quand on connaît la faiblesse de quelqu'un, on a à mesure de tout faire pour lui. Ce qui fait que le gouvernement congolais devrait d'abord prendre certaines choses en main. Si vous vous rendez compte, M. Perrault, c'est chaque année où on fait l'ouverture de l'année académique et la fermeture de l'année académique. Est-ce que quand on fait les ministres qui font souvent, les ministres qui font souvent l'ouverture et la fermeture de l'année académique, est-ce qu'ils se rendent compte combien de licenciés, de diplômés qui lancent sur les marchés? Bon, après les avoir lancés, est-ce qu'il y a quand même des emplois qui peuvent les faciliter la tâche que non, quelqu'un a dépensé son argent, est-ce qu'il peut avoir l'emploi facilement? Maintenant, qu'est-ce que se fasse? Si vous vous rendez compte que quelqu'un qui a étudié, après un certain moment, il a passé beaucoup d'années, beaucoup de jours, beaucoup de mois, sans emploi. Une fois qu'il est intéressé par quelqu'un, soi-disant qu'il y a un emploi, même s'il n'a pas quelque chose, même s'il n'a pas l'argent, il va faire de tout son pouvoir, soit à vendre, soit à acheter quelque chose juste pour se procurer d'un emploi. Et comment nous pouvons juste dire que l'ONEM, nous pouvons juste déclarer la dysfonctionnalité de l'ONEM aussi longtemps qu'il n'y a pas des emplois, M. Perrault. C'est un peu douloureux. C'est un peu douloureux. Donc, comme les cas qui venaient de se passer récemment à Kananga, parce que moi-même, là, j'étais à Kananga avec, dans ces cas-là, comment expliquer qu'un individu peut entrer dans la province aussi longtemps que les autorités sont là? Il ne peut pas passer directement à la mairie pour présenter ce document. Catégoriquement, il lance des communiqués et les journalistes, tellement qu'ils avaient vu les moyens, ils commencent déjà à parler de l'emploi en question, jusqu'à tel point où les gens ont commencé à donner de l'argent juste pour faire la preuve.
Passer le test.
Oui. Avec ça, c'est qu'il faut que c'est un problème de l'État qui est d'abord régulateur de tout ça. Donc, la responsabilité à 80% incombe l'État et 20% aux individus qui
Tombent dans les pièges, voilà, pour un besoin quelconque. Et d'ailleurs, merci beaucoup Dieudonné pour ces témoignages. Si on doit revenir à ce qui s'est passé à Kananga, vous avez été aussi victime. Quand même, c'est intéressant. Notre invité le disait tout à l'heure que quand il y a un recrutement d'immense, quelqu'un qui se présente dans une ville, qui passe dans les médias, qui annonce qu'il a une société, ça s'appelle Maisha, il va engager des gens, passer déposer vos candidatures. Et à un certain moment, les services spéciaux, comme le disait notre invité, il devait quand même être informé et savoir mais quelle est cette société, où se trouve l'adresse, et quelqu'un s'installe dans une ville autant de jours, il prend de l'argent, il passe dans le média et puis après il disparaît. Vous estimez que c'est la faiblesse du pouvoir public et aussi le fait qu'il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas d'entreprise et les gens sont exposés, ils sont victimes parce qu'ils ont besoin de pouvoir se retrouver. Merci beaucoup. Dieudonné, Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, mais en attendant, sur la page Facebook, Rodriguez Basanga, qui est en Mbandaka, estime à son avis qu'il s'agit là d'un acte manifeste d'enrichissement sans cause. Ceci témoigne la faiblesse de l'autorité congolaise incapable de garantir les droits de ses compatriotes. Ces structures et organismes internationaux sont en principe tenus d'avoir les engagés locaux. Donc, cette émission doit vraiment servir de dénonciation pour l'autorité judiciaire compétente aussi, afin que ces comportements antisociaux tendant à troubler l'ordre soient découragés. Crispin Chris, ces systèmes d'espionnage posent un véritable problème dans notre pays. Les criminels ici profitent aussi du comportement de ceux-là qui, même quand il y a un emploi réel, des gens qui monnaient l'accès à l'emploi, même quand cela existerait dans des ministères et dans des structures publiques où on vous exige de donner la moitié de votre salaire pour être engagé. On connaît cela, ça existe ainsi. Et c'est ça le problème. Et Timothée, qui est à Kananga, lui, il était aussi victime d'une personne qui l'a appelé au téléphone, qui s'est passé pour être un inspecteur national de l'EPSP. Il lui avait demandé de lui envoyer $100 par MPSA pour faciliter les travailleurs à l'inspection générale de l'EPSP à Kinshasa. Ces problèmes sont aussi récurrents sur les réseaux sociaux où j'ai eu plusieurs fois des tentatives d'arnaque avec des messages des personnes se disant être au Bénin, mais demandant des sommes d'argent pour me permettre de travailler au Canada, en Suisse et partout ailleurs. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut être plus prudent. Félicien, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour à l'invité.
Et quand on écoute les uns et les autres, c'est un véritable problème, mais malheureusement qui est chaque fois abordé comme quelque chose de passagère, mais en écoutant les uns, les témoignages et ce qui se passe, c'est un problème sur lequel on devrait s'épancher sérieusement, Félicien.
Exactement, mais vous savez, dans un pays comme le nôtre, avec toute cette misère noire, et le chômage qui bat son plein, on aura toujours ce genre de choses, ça date pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens profitent aussi de la désorganisation des pouvoirs publics chez nous. On ne peut pas comprendre que quelqu'un, parfois même, loue un local, et les gens sont là, des attroupements qui viennent pour chercher du travail. Mais ils mènent cette affaire-là parfois une année, parfois 6 mois et tout ça. Ils escroquent les gens et ils s'en vont sans être inquiétés. Alors que quand vous ouvrez une petite boutique dans des coins, vous avez au moins 25 services qui passent là-bas pour venir vous demander l'autorisation d'ouverture, les ceci, cela, environnement, culture et art et tout. Donc, vous n'avez même pas encore commencé à vendre, mais vous avez tous les services qui passent là-bas pour venir vous tracasser. Mais ceux qui viennent pour piller et pour escroquer les gens, comment ils arrivent à la fin de leur mission sans être inquiétés? C'est là le pays qui fonctionne dans une corruption généralisée. C'est difficile d'arriver à trouver des solutions pour ce genre de problèmes. Alors moi je pense que c'est l'ONEM, le ministère du Travail qui est mal organisé. Et si tout le monde savait que tout doit passer par l'ONEM, l'Office national de l'emploi, que ce soit les privés, que ce soit les entreprises publiques ou engagées, ça passe par l'ONEM, et que le peuple savait que tout passe par l'ONEM, alors il serait pas pris au piège de cette façon-là. Mais l'ONEM a changé sa mission. Maintenant, il vend des cartes aux chômeurs, des cartes des chômeurs, et les chômeurs doivent payer de l'argent pour avoir cette carte. Comme si c'était un bénéfice pour lui. Et il ne sait pas exactement quand il a vendu la carte à cet homme, qu'est-ce qu'il va faire avec. Dans les entreprises publiques, les DG commencent à engager d'abord ses enfants et après ses enfants, sa famille d'origine, après la famille d'origine, c'est la tribu, après la tribu, les clans et tout ça. Et puis tous les gens de sa province, et vous trouverez que là, et même dans son cabinet, c'est la langue vernaculaire qu'on parle. Et dans le privé, on organise parfois des tests et tout ça. Mais les tests, c'est pas le patron qui va savoir qui a souvent si le patron est un expatrié. Alors le chef du personnel fait son affaire. C'est lui qui va extorquer les gens à gauche et à droite. Les inspecteurs de travail qui passent par là, quand on lui leur a donné $50, ça suffit pour régler l'affaire. Et un pays qui fonctionne comme ça, la population ne peut être qu'exposée à ce genre d'arnaque. Ce n'est que normal, parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer, et ils se battent par tous les moyens, et partout on les appelle, ils vont croyant qu'ils peuvent tenter sa chance, et ils tombent dans ce genre d'escroquerie. Donc c'est le pays qui est mal organisé, c'est le pays qui est mal gouverné, et je pense qu'un jour on arrivera à avoir une gouvernance, mais surtout le ministère du travail et de l'emploi ou tout ça, je ne sais pas comment, avec toute une décennie, les palos de Guizeng a géré là-bas et qui ont promis monts et merveilles au peuple, ils ne sont pas arrivés à organiser ces services de l'ONEM qui devraient vraiment aider les Congolais à avoir du travail de façon honnête.
Merci. Merci beaucoup, Félicien. C'est très profond. Ça demande vraiment qu'on s'y penche et vous êtes revenu encore sur cette question de gouvernance. Merci beaucoup pour cette intervention. On a deux témoignages assez intéressants sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Alain Evariste Bassanga qui est en Mandaga. Il dit, moi j'ai été victime deux fois de ces arnaqueurs. La première fois c'était en 2016 où une congrégation dénommée Barnabas qui octroyait des bourses pour les Canada moyennant $300 pour l'achat de passeports. C'est ce que j'ai fait. La deuxième fois en 2016 avec l'ONG Centre International d'Observation, frais d'adhésion $50. Tous ces frais sont allés en fumée, $350. Et là déjà deux fois, il fallait être plus prudent, Alain Evariste. Et Victor Mutumbula qui est à Chikapa dit, à Chikapa ça vient de se passer il y a deux mois, un homme venu de Kinshasa, il a lancé un appel pour dire qu'il cherchait 50 personnes comme observateurs pour les prochaines élections. Les gens se sont pointés, 75 personnes, ils ont payé $50. Et un jour, le gars a amené les jeunes qui avaient payé cet argent chez Soficom qu'il allait retirer $75,000 qui lui étaient envoyés de Kinshasa pour le travail des observateurs. Et à partir de Soficom, le gars a disparu. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. Voilà autant de témoignages. On va à Bagdolité. Maître Olivier, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, également à l'invité, aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Maître Olivier.
En fait, Monsieur Pierrot, par rapport à la thématique du jour, je dirais qu'à mon humble avis, c'est un phénomène un peu général qui touche la plupart des pays africains, voire aussi des pays sur le plan international. Je vois que c'est un phénomène qui touche plus le pays par manque par manque d'accès facile à l'emploi, puisque tel qu'est le cas de la RDC. Je vois que c'est un problème un peu sérieux, puisque le plus grand danger dans tout ça est que nous n'avons pas de services spécialisés pour détecter tous ces arts de catastrophes. Si je peux le résumer, je dirais que c'est un problème d'abord sur base de la corruption. Le problème premièrement, je pense que c'est un problème de la corruption qui est généralisé. Et comme conséquence, les gens ont développé dans leur mental cette culture de la corruption qui s'avère aujourd'hui comme une situation normale. Donc pour avoir quelque chose, il faut verser un sou. C'est un peu ça qui essaye aussi de conduire les gens. Il y a l'impunité du côté de l'État. Deuxièmement, c'est aussi un problème des réseaux sociaux. Donc la plupart des personnes dévoilent leurs identités à la portée publique. C'est aussi un problème d'une responsabilité personnelle. Puisque le fait déjà qu'on vous dévoile vos identités, quelqu'un d'autre peut le prendre facilement et puis vous manœuvrer facilement pour vous soutirer quelque chose. Et troisièmement, c'est l'incapacité aussi la responsabilité de l'État. C'est-à-dire, l'État n'organise pas des choses. Nous sommes dans un pays où l'État s'avère être totalement incapable et responsable. Pourquoi? Parce que, premièrement, dans le domaine d'emploi, il y a vraiment, nous sommes dans un État où on ne peut pas parler réellement si nous sommes dans un État d'emploi. Les jeunes terminent l'université, terminent voir les études de l'humanité, ils sont des diplômés, des gradués, des licenciés. Et par manque d'emploi, c'est ça, c'est qui induit vraiment le jeune aussi à se lancer dans ces circuits.
Les gens s'exposent.
C'est le cas de Badolité. Ce cas, il y a récemment, il y a des gens qui sont venus organiser une ONG et qui ont demandé, ils ont pris un local officiellement, ils ont recouru même par voie de l'État, ils ont pris un local, mais ils ont escroqué des gens en leur soutirant $50 par chacun, jusqu'à ce que ces gens sont évanouis dans la natie. Mais c'est un peu un phénomène un peu
récent. Et ce qui est bizarre,
je conseillerais aux gens moins d'être prudents.
Assez prudent. Merci beaucoup, Maître Olivier, parce que là, on a un dernier auditeur, je crois bien. Et ce qui est bizarre, quand on l'a dit pour l'emploi, il y en a qui escroquent à travers le téléphone, par Internet, mais il y en a aussi qui escroquent cette question visible dans une ville. Les gens prennent un local. Il y a, par exemple, ces témoignages des Jean-Pierre Tinaï à Kananga. Lui, il dit, écoutez, même l'histoire est allée dans les universités. Il y a même des anciens étudiants qui escroquent les nouveaux en leur proposant de payer les trois quarts des frais comme montant d'inscription. On l'a vu dans les universités où des étudiants ont escroqué les autres, leur demandant l'argent, se présentant comme ceux qui facilitent l'inscription à l'université. Joseph Désiré Yuma qui est à Kisangani, Franco Aboudou Baguid qui est à Calais au sud Kivu, lui et tous ils reviennent sur ces arnaques. Mais les témoignages de notre ami Franco, il dit en 2009, des gens sont venus se présentant au nom de UN Habitat qui ont escroqué 100 dollars à la population, soi-disant qu'ils avaient la facilité d'accorder des bourses d'études. Il y a 2 ans, d'autres sont venus, ils ont pris plus de 10 enfants. De moins de 10 ans, sous prétexte qu'ils les aidaient à aller étudier à l'étranger. On n'a jamais su ce que ces enfants sont devenus. Jean-Paul Mokaya, lui, qui est en Gandajika, estime que le ministère, le gouvernement ne se demande jamais combien de gens ont été formés et combien d'emplois ont été créés. Et c'est comme ça que les gens sont victimes de ces arnaques. Rapidement, Maître Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres votre point de vue.
Bon, merci Thierry pour la parole que vous me passez. Moi, j'allais dire que la plupart des gens qui se livrent à ces aventures-là, disons ceux qui ont tendance à être escroqués, ce sont les gens qui n'ont pas vraiment la formation, hein. Ils ne sont pas formés, mais ils sont à la quête des emplois. Et puis ils n'ont pas même l'esprit de créativité, la plupart de ces gens-là. Moi, je pense que les gens formés, voire connaissants, devraient se comporter en sage. Dans la plupart des cas, ce sont des soi-disant commandeurs d'emploi qui remplissent la majorité des Congolais qui sont commandeurs d'emploi, qui sont escroqués dans ce sens-là. Mais il est aussi vrai qu'il y a une ignorance par rapport à l'évolution de la technologie. Actuellement, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux, les gens n'ont pas tendance à discerner les choses et pour cela, ils sont aussi victimes. Mais s'il y a des crimes, réellement, si nous parlons de l'escroquerie dans les cas d'espèce, je pense que c'est la meilleure manière de suivre ces comportements-là, ces mouvements-là, c'est ceux qui sont appréhendés du ça. Mais nous ne pouvons pas de pousser.
Voilà, Maître Gaston, oui. Maître Gaston, on a des petits soucis avec votre...
Ouais. Parce qu'il y a l'évolution de la société. Il faut vraiment adapter aussi notre code pénal dans ce sens-là, ce serait une bonne chose.
Merci.
Merci
beaucoup, Maître Gaston. Là, que la ligne se détériore entre vous et les studios, mais vous estimez qu'il faut adapter aussi le code pénal pour cette nouvelle forme de criminalité, c'est une question de l'esprit d'initiative, c'est une question d'ignorance, l'évolution de la technologie, voilà, c'est pourquoi il faut beaucoup plus aussi de sensibilisation. On revient à vous, David Pata, on a suivi les uns et les autres en 2 minutes pour conclure cet échange. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir. J'ajoute déjà qu'il y a une autre forme d'escroquerie, d'arnaque, c'est-à-dire que la personne, il maîtrise bien les structures, il connaît bien les individus, mais lui, il ne travaille pas là-bas. Mais quand il se présente, il vous présente les noms de quelqu'un qui travaille, par exemple, dans une entreprise X. Et la personne, réellement, il travaille là-bas. Mais la personne n'a pas de lien avec ce monsieur-là. Et là, les gens aussi se laissent emporter. Pour conclure, ce qu'on doit savoir, d'abord, premièrement, l'État congolais a une part de responsabilité, parce que simplement, s'il y avait des emplois décents et en grand nombre et en nombre suffisant, et de telles arnaques ne pouvaient pas exister. Mais comme c'est un phénomène social, ça va toujours exister. Ce qui va effectivement nous appeler à aborder d'autres aspects, comme quoi l'ONEM devrait se charger de faire les monitoring de toutes les offres publiées dans l'espace congolais, parce que c'est leur travail. C'est pour ça que l'ONEM, entre autres, donc j'ai dit il y a plusieurs, entre autres, devrait s'atteler, c'est-à-dire faire le monitoring de toutes les offres. L'objectif, c'est quoi? De s'assurer que les offres publiées sont des offres réelles, des vraies. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que l'ONEM devrait effectivement nous faire des statistiques, même présenter les statistiques des différentes offres. Ces statistiques n'existent quelque part. Maintenant, si nous prenons des services spéciaux, les services spéciaux ont aussi le mandat de veiller sur des activités de grande envergure. Quand on appelle des gens dans une grande salle pour qu'ils passent des tests, des incidents peuvent effectivement se produire. Des mouvements de contestation peuvent commencer à partir de là. D'où ils sont obligés de pouvoir aller aussi collecter des informations. Mais quand ils vont collecter des informations, ils doivent s'assurer effectivement que la structure existe réellement. Partir de là, comme le cas effectivement du monsieur qui a été arrêté, pouvait effectivement se multiplier et c'est une façon également de décourager les arnaqueurs.
Merci.
Je vais rappeler une chose rapidement, que ce n'est pas un phénomène qui commence aujourd'hui. Ça commence avec depuis longtemps et surtout Bindo a bouffé l'argent. Et les individus ont une part de responsabilité. Ici, la prudence. Peu importe que les entreprises existent ou pas, que les gens créent ou ne créent pas, que l'on aime faire son travail ou pas, ou les
services. Il faut être prudent.
Les individus sont obligés d'être prudents.
Merci beaucoup, David Pata, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de recrutement et vous êtes aussi formateur à Sodeico. Merci. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la mise en onde de Paroles aux Auditeurs pendant cette semaine. Merci à Tati Mapoukou qui était avec nous pour la réalisation du magazine des séjours. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi et particulièrement à notre auditeur Joseph de Lubumbashi qui nous a écrit pour célébrer le premier anniversaire de son mariage. Bon week-end Joseph et anniversaire à tous les fidèles auditeurs qui les fêtent aujourd'hui. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Et l'émission est sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.